Active Chorale, le podcast de la chorale de Rouen par Active, première radio locale de la Loire, Fabien Zaghini.
Salut à tous, on se retrouve ensemble pour débriefer le match de la 27e journée de Betclic Elite. La victoire de la chorale de Rouen contre les Metropolitans 92 de Boulogne-Levallois, succès 105 à 93. À mes côtés pour débriefer cette victoire, Nicolas Bria. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir les amis.
Et Alexandre Combe, number one sur X et sur le forum corallien. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir à tous.
La victoire était impérative, les Rouennais l'ont remportée. Avec la manière, cette victoire ?
Plus ou moins.
Oui, avec la manière. Il y a eu un petit contretemps au troisième quart, mais on va dire que la manière y était quand même.
Il y a quelques mots récurrents qui nous ont fait très peur.
105-93 plus 12 au final pour les Rouennais, alors que l'écart d'évaluation est assez abyssal, hein. 145 d'éval côté Rouennais, 88 pour les Metz. Les Rouennais qui ont poussé l'écart à plus 27 dans ce match, avant de voir les Mets revenir jusqu'à... alors, ils sont passés sous la barre des 10. Hein,
8 9, points, je crois.
Ouais, 8 ou 9.
Ouais. 8 ou 9 points.
Au final, malgré tout, on a quand même l'impression que cette équipe rouennaise, elle a gagné, pas dire tranquillement, mais elle s'est rendue le match facile.
Non.
Alors, pas d'accord.
Non, allez-y. Pas du tout. Ouais, alors... globalement, la plupart du match, ça s'est très bien passé. On a été bien.
Alors, ils étaient menés à la fin du premier quart-temps, 27-25. Et puis, il y a eu ce gros coup de boost, hein, le deuxième quart-temps qui a vraiment fait la différence. Parce qu'au final, les Rouennais perdent deux quart-temps, font match nul sur le quatrième et n'en gagnent qu'un dans le match. C'est Mais ça. Ils le gagnent de 21 points, 31-10, qui est peut-être le meilleur quart-temps de la saison côté Rouennais.
Exact. Et bizarrement, je crois qu'Antoine Diot doit presque pas jouer le deuxième, alors que dans le premier, c'est lui qui met toute l'énergie de l'équipe.
Oui, t'es à 12 points, je crois, sur le premier quart-temps, ouais. Antoine Diot.
Oh ouais. Non, moi je disais qu'on s'est pas rendu le match totalement facile parce que en fin de match, enfin surtout le fin de troisième, on laisse encore une fois des shoots à trois points dans tous les sens à tout le monde, et puis on se met au milieu du quatrième à gérer des possessions, je comprends pas. On a globalement 3-4 possessions d'avance et on prend des shoots, il reste 8, 10, 12 secondes.
Est-ce que c'est pas aussi inhérent à une équipe qui finalement a rarement eu cette saison l'occasion de gérer son avance, hein, la chorale elle a plus souvent couru après le score. C'est une situation qu'elle a très peu connue cette saison. Elle l'avait connue face au Portel où elle avait fait une bonne première mi-temps et elle s'est mise en difficulté en deuxième mi-temps. Elle a même vu le Portel lui repasser devant. C'est aussi le problème d'une équipe qui est malade d'une certaine manière. Quand tu es 16e au classement, tu es forcément dysfonctionnel par moment.
Oui, c'est quand même une belle victoire ce soir qui se fait en deux temps. En deux temps, c'est vrai qu'ils ont dû recravacher au quatrième pour assurer la victoire. Après, il y a eu des petites erreurs peut-être de coaching aussi. Quand t'as plus 27, t'as Morin à trois fautes, tu le gères quoi. Tu le fais sortir et tu fais.
Est-ce que la sortie de Yanis Morin pour la quatrième faute,
c'est ça. Moi,
derrière, il y a eu un 15-0, je crois.
Voilà, moi, je trouve que quand t'as pas Morin 15-0. Sur le parquet, d'ailleurs, il a plus 18 en plus moins à la fin. Moins. Quand il est revenu, on a repris de l'écart parce que l'axe 1-5 repartait, on avait des rebonds. Il y a une mauvaise gestion du plus 27, ouais. À mon sens. On doit pas jouer avec le feu à comme ça. Après, dès qu'on a remis 1-5 et puis de l'intensité aussi dans la volonté, la différence s'est faite de nouveau tout de suite. Mais il y a quand même des petites erreurs. À plus 27, tu dois pas laisser revenir le dernier du championnat à 8 points. Non,
et puis même Morin, 3 fautes, ok. Mais il n'est pas obligé de défendre. Si à un moment donné, on prend que des paniers dans la raquette à deux points et qu'on gère toutes nos possessions en allant jusqu'au bout, il ne se passe pas la même chose que quand tu laisses, j'ai oublié son nom, le numéro 10 adverse, là, qui a commencé en quille à trois points dans tous les sens, Brown, je crois que c'est ça. Et là, tu les remets complètement dans le match. À un moment, on aurait peut-être pu essayer de sécuriser un peu plus les extérieurs, même en laissant Morin sur le terrain, en disant défends pas, laisse les paniers. Mmh.
Après,
puis,
il a joué
ses possessions.
Ouais, il a missionné Kadri sur le 10 à un moment donné pour le calmer. Mais c'est vrai que c'est un peu symptomatique d'une équipe aussi qui n'est pas à 100% de ses capacités psychologiques, j'allais dire. Parce qu'en fait, c'est un relâchement tout simplement à plus 27. Les joueurs sont relâchés et puis derrière, c'est enquillé. Et on sait que le basket, c'est un sport de série. D'adresse, ça peut être fluctuant et aléatoire sur un match. Et on a failli se brûle les ailes à moins 8, voilà, ça se joue à 2-3 possessions.
On a eu 3-4 minutes, on s'est fait un peu peur.
Ouais. Est-ce qu'il, après, il n'est pas un peu injuste de considérer que cette victoire, elle était facile et que la chorale de Rouen a un peu déjoué par moment? Le Valois restait, enfin, Boulogne-Valois restait sur une victoire à domicile face à Dijon. Est-ce que la réduire à son statut de lanterne rouge, c'est pas un peu facile? Parce que cette équipe de Boulogne-Valois, elle a rendu la vie difficile à d'autres équipes sur les dernières semaines, malgré les défaites.
Non, mais complètement. Tu as entièrement raison. En face, il y avait une équipe qui était équilibrée, un pivot qui était massif, qui était costaud, qui a donné du fil à retordre physiquement à nos intérieurs, des extérieurs. Un meneur, par contre, que je n'ai pas trouvé formidable, Frazier, je n'ai pas trouvé exceptionnel, notamment en termes de réussite.
4 sur 15 au tir.
Il y a beaucoup de déchets.
Mais il finit à 10 passes quand même, hein. 12 points, 10 passes.
Mais au-delà de ça, je ne veux pas faire les rabat-joie ce soir, mais je ne peux pas m'en empêcher. Moi, ce qui me déplaît, c'est prendre 93 points contre cette équipe. Ok, ce soir, on gagne. Il fallait gagner. C'était ça ou...
Encore une équipe qui termine à 50% l'adresse à 3 points à Vacheresse.
Ou la Pro B ce soir, mais on est à 93 points à domicile contre Boulogne-Levallois. Bon, moi je ne suis pas entièrement...
Qui est la 15e attaque de Betclic
Elite
Levallois.
Je ne suis pas satisfait à 100% du match. Bon, on va se contenter de la victoire, c'est ce qu'il fallait.
C'est le plus important.
Mais pour la suite des choses, bon, c'est...
Mais c'est une équipe qui nous ressemble beaucoup, moi je trouve. C'est une équipe qui a des très jolis noms. Je veux dire, tu prends les joueurs un par un... Des Toupanes, des Looms, des Konaté, c'est des jolis joueurs. Hein. Mais ça manque un petit peu de collectif.
Le même match à l'extérieur, on le perd en fait.
Ce qui est arrivé d'ailleurs au match aller.
Voilà, mais je me focalise déjà sur la suite du championnat. Ce soir, c'est rentré. Globalement, on a mis des shoots. Alors, il y a eu un peu de maladresse à certains passages, mais globalement, c'est rentré. À l'extérieur, un match comme ça, en étant autant permissif encore une fois... Je vois pas comment on peut enclencher une dynamique de victoire. Là, le prochain match, on en parlera après. Mais tu vois, les 93 points, je les trouve un petit peu.
Mais c'est comme le Portel, hein, finalement. On gagne un match un peu au couteau, mais avec un carton qui change tout. Et c'est un match qu'il fallait gagner comme le Portel. J'espère qu'il n'y aura pas la même suite.
En face, ils sont à 50% encore à 3 points quoi, contre nous. Quoi. Enfin, ils sont à 17 sur 34, un truc de dingue.
Quand je te dis qu'il fallait laisser les shoots dans la raquette éventuellement et puis défendre à 3 points, c'est pas pour rien.
Allez, on va écouter la réaction de Marc Bergeois en conférence de presse après cette victoire rouennaise.
Il y a eu des très bonnes séquences, je pense. Dans l'implication des joueurs aussi, je suis très satisfait, puisqu'ils ont répondu présent. Après, tout n'est pas parfait, mais il y a des fois, savoir se contenter de la victoire, c'est très bien. Il y a eu vraiment des bonnes choses, mais de toute façon, on voulait juste gagner aujourd'hui, donc c'est chose faite. Mais moi, j'ai trouvé aujourd'hui un groupe. Certains de vos confrères ont dit qu'il y avait une scission dans le vestiaire. Non, je crois qu'il y a une prise de conscience de tout le monde. Des gens qu'on pointait du doigt avant ont été très efficaces sur des temps de jeu tout à fait corrects. Enfin, des petits temps de jeu. Mais ils ont été performants et ça, c'est nouveau et c'est bien. C'est bien parce que moi, ça me permet de pianoter et de garder un peu de fraîcheur et que chacun apporte son écho.
Oui. Est-ce qu'on, encore une fois, on peut pas attendre d'une équipe qui est sur 3 défaites de rang, qui est 16e, qui a perdu 11 fois sur les 13 derniers matchs, d'avoir en plus de la victoire la note esthétique, la note artistique? C'est peut-être l'exigence ne peut pas être placée à ce niveau-là.
Non, mais la note esthétique est liée ce soir. Il y a du spectacle, il y a du shoot.
Effectivement, oui. C'est la deuxième fois que la chorale de Rouen passe la barre des 100 points.
C'est juste la défense qui m'a déplu, alors que Marc le souligne, hein, on a vu des joueurs qui étaient vraiment investis, Grady en défense, Morin en défense. Moi, j'étais pour une fois assez proche du terrain, j'ai pu m'apercevoir de l'intensité près du parquet, et il a entièrement raison. Il a eu 10 joueurs qui ont répondu présent sur des temps de jeu courts, longs, et ça, c'est la note très très positive du soir. Mais malgré tout, on encaisse 93 points. Donc, si on venait pareil à l'extérieur à Chalon, mais ça sera la même. On pourra pas gagner à l'extérieur en encaissant autant de points.
Les Rouennais sont devant au rebond au total 37-33, mais ils ont concédé davantage de rebonds offensifs qu'ils n'en ont pris. Hein. Ils ont concédé 14 rebonds offensifs, ils en ont pris 10. Autre statistique, le nombre hallucinant de passes décisives, on parlera de DJ Cooper. Parlons des joueurs investis. Alors, il y a un nouveau joueur, Wayne Selden, ce qui augmente la rotation. Hein. Il n'a pas besoin d'envoyer un joueur en tribune, Marc Bergeois, puisque finalement, il a son quota de joueurs américains, de joueurs étrangers. Tout est OK de ce niveau-là. De ce côté-là, on a beaucoup pointé Kellen Grady et Jordan Tucker, leur rendement pour des raisons différentes. Kellen Grady pour son problème de confiance, Jordan Tucker pour son manque d'investissement. Bon, est-ce que c'est, encore une fois, est-ce que c'est la faiblesse de l'adversaire supposée ou est-ce que c'est une réaction collective, une prise de conscience dont parle Marc Bourgeois qui a permis de voir eh ben, Tucker et Grady rentables sur leur temps de jeu, ce que tu as souvent reproché, oui. Toi Nicolas, le manque de rentabilité par rapport au temps de exactement. Jeu, par rapport également à la feuille de paye.
Exactement. Moi, alors, on verra un peu dans le futur pour savoir l'origine de l'amélioration de Tucker, notamment. Est-ce que c'est un accident statistique, parce qu'il a le droit de faire des bons matchs de temps en temps, ça peut tomber, ou est-ce que c'est l'arrivée d'un nouveau joueur sur son poste qui est capable de faire comparaison sur ses stats en fin de saison.
Tucker qui a le meilleur plus-moins, il a ouais. plus 21. Après, il a joué beaucoup dans le deuxième quart-temps.
Non, ouais. mais il y a des choses qu'il faut noter, Tucker. Tucker qui part au dunk, c'est pas arrivé ouais. très souvent cette saison. Enfin, il s'est fait éclater sur l'action, mais il a pris le ballon, il a eu envie d'y aller.
Oui, avec, et, un, joueur, avec un joueur qui défend sur lui.
Oui. Non, mais c'est pour ça. Alors, est-ce que c'était voilà, un accident statistique ou est-ce Tucker, que c'est une vraie dynamique qui se lance ?
Il fait 8 points, un rebond, une interception en 10 minutes. Et Kellen Grady, pareil, 8 points, 2 sur 3 à 3 points. Les deux hommes à 2 sur 3 à 3 points. 8 points, un rebond en 13 minutes. Et une passe D pour Kellen Grady.
C'est pas mal. Mais à la fin, leur adversaire direct, si le Valois est au-dessus de 50% à 3 points, c'est pas pour rien. C'est pas le pivot hein, qui fait ça.
Ouais, après, on ne peut pas reprocher ce soir à ces deux joueurs leur manque d'investissement défensif. C'est collectif parce que quand il prend feu, je crois qu'ils ne sont même pas sur le terrain en fait. Grady oui. rentre après, tu vois. C'est général, c'est toujours des temps de retard, c'est peut-être des écrans qui sont mal anticipés. Enfin, j'ai pas envie de pointer. Ce soir, leur.
Voilà, mais sur les 93 points de Boulogne-Levallois, il y en a quand même beaucoup qui viennent derrière la ligne à 3 points.
Ah, tu peux regarder.
17 paniers à 3 points.
Ouais, mais tu peux cibler aussi Cooper. On va faire oui. la transition avec les passes d'ess. Mais tu vois, c'est symptomatique. La dernière action, qui c'est qui la marque ? C'est les Mets parce qu'il vient de donner une passe d'ess à Sekou pour faire sa 23e passe. Et derrière, il y a zéro repli. Je l'ai trouvé tellement symbolique, cette action de match, parce qu'il a 23 passes, un joueur fabuleux. Mais en défense, bon voilà, c'est pas non plus.
Et question bête, c'est pas cette action, on perd pas le point average sur cette action ? On n'avait pas fait moins.
On aurait moins 7 là-bas.
Moins 7, ok.
Moins 7, et là plus 12, donc le point average est repris. Bon, si okay. jamais ça devient un enjeu, au moins il est en faveur des Rouennais. Est-ce qu'on parle d'abord de Wayne Seldon ou d'abord de DJ Cooper ? Finissons peut-être sur Wayne Seldon avant de passer au sujet Cooper. Non, dites-moi, qu'est-ce que vous préférez ?
Seldon, honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire ce soir. Finalement, j'ai pas pu le juger.
C'est peut-être le bémol de la soirée, c'est que cette belle victoire va peut-être aller apporter un peu de confiance à cette équipe, mais la recrue Wayne Seldon a pas eu l'occasion vraiment de se mettre en évidence. On l'a senti même un peu frustré dès qu'il sortait du terrain. Frustré peut-être vis-à-vis de lui, vis-à-vis de je ne sais pas quoi, mais on attendait. Alors, Marc Bergeron a prévenu, ce ne sera pas le sauveur. Effectivement, il ne va pas sauver grand-chose si il a cette production-là sur les matchs qui viennent. Wayne Seldon, c'est 16 minutes, 2 points à 1 sur 3, 3 rebonds, une interception, 2 passes décisives. Mais voilà, il n'a pas survolé les débats.
Non, mais c'est très bien. Moi, je vous ai suffisamment dit toute la saison que je trouvais qu'on souffrait du syndrome du sauveur. On a un mec qui arrive, qui pourrait essayer de prendre cette cape-là, lui aussi. Il a rien forcé. Il a plutôt fait tourner. Défense, c'était pas extraordinaire, mais il était là. Il amène beaucoup de densité. Moi, je trouve, quand tu vois Grady, qui est un peu petit, etc., lui, il amène beaucoup de densité. Je trouve que ça fait du bien. Il a rapidement commencé à essayer de pénétrer un peu. Ça met beaucoup plus d'alternance dans notre jeu. C'est pas parfait, c'est pas le sauveur, mais je crois que c'est sans doute la pièce qui manquait pour retrouver un peu de collectif.
Oui, comme tu l'as dit, collectif. Il est resté dans le collectif en s'occupant de jouer des balles en transition.
Et puis c'était pour lui une espèce de prise de température avec
oui,
un
voilà.
championnat qui
j'ai vraiment senti ça. Ouais.
Il sort de Taïwan, enfin le championnat taïwanais, ça doit pas être le niveau de la Bet Ticket Elite, ça doit être plus proche de la National 2.
C'est clair. Et en plus, il a demandé quelques ballons, tu vois, il était un peu frustré. J'ai vu à un moment donné Cooper lui a pas lâché rapidement, il avait envie de mieux faire, c'est pas pour autant qu'il s'est frustré à tenter des shoots un petit peu n'importe comment. Donc là, c'est un peu trop tôt pour le juger. Après voilà, ça fait une rotation de plus. Comme tu dis, physiquement, voilà, physiquement, il est quand même imposant, impactant. Voilà, on jugera sur un match où il aura plus de temps de jeu et plus de responsabilité surtout.
DJ Cooper, 10 points, 23 passes décisives. Ça n'était plus arrivé depuis 1988 qu'un joueur dans ce championnat distribue 23 passes décisives. Bon, on n'est plus étonné de DJ Cooper, mais il faut quand même reconnaître que le chiffre est ahurissant.
Moi, j'ai cru qu'il y avait une erreur sur la feuille de stats.
La meilleure équipe de Betliquidito aux passes décisives, c'est Rouen, avec 21 passes par match. 21 passes par match. Lui, il en a mis 23, lui tout seul, dans un match.
Après, il faut dire que c'était son objectif de la saison. Oui. D'avoir un nouveau record à l'NB à son nom, mais il faut
il égale son record individuel.
Il faut reconnaître qu'il fait des passes quand même qui sont magiques. Franchement, quand il transperce une raquette avec une passe avec rebond et qu'elle arrive à un centimètre près, sa passe, il en a fait plusieurs comme ça. Après, sur les 23 passes, il y en a une quinzaine qui sont efficaces, qui sont dans le jeu, et puis il y en a 8, il peut prendre le shoot, mais ça on le sait.
Il y a une action emblématique en fin de match où il est totalement ouvert, mais je refuse parce que si je pouvais faire une passe de plus, ce serait pas mal quand même.
C'est ça.
Oui, mais je vais pas vous le dire à chaque fois la même chose.
Après, ça reste un joueur,
Est-ce que vous appréciez le spectacle, vous, en tant que spectateur en tribune? Est-ce que le spectacle d'un joueur qui fait des belles passes...
Termes de jeu basket, moi, je suis bluffé par les passes qu'il est capable de faire.
Quand il charcute la défense, comme il sait si bien le faire, moi, je trouve ça phénoménal. Il sort des passes qui sont extraordinaires. Quand il part en contre-attaque, il s'arrête en attendant qu'il y ait quelqu'un qui arrive pour lui faire la passe, ça m'agace.
Voilà.
C'est aussi...
On voit les coutures, ça force un peu. On sent qu'il est dans cet objectif-là de record.
Et le problème, c'est que ça lui est déjà arrivé cette saison de perdre des ballons là-dessus, alors que ça devait faire 2 points. Et ça prouve que ça, c'est pas un objectif collectif. Et c'est dommage.
Après, il est à 36 minutes et il a une ligne de stats quand même qui est assez impressionnante.
Est-ce que d'ailleurs, on ne peut pas regretter que DJ Cooper, alors c'est bien, il fait son record, 36 minutes dans un match où la chorale a poussé l'écart à plus 27, et il a une rotation derrière qui n'est pas entrée en jeu, Alexandre Bouzidi.
Mais complètement, je te l'ai dit tout à l'heure, quand on est à plus 27, que tu laisses ton Morin à 3 fautes prendre sa 4e, et après tu serres les fesses, tu le remets à la fin pour remettre un peu de jeu offensif dans la raquette et de certitude, et à côté de ça, t'as Bouzidi qui joue pas. Alors, peut-être qu'il était blessé, tu vas me dire.
36, mais Dio 29.
La gestion des plus 27, pour moi, elle a pas été bonne du tout de la part du coach, notamment sur Grady. Il a benché Grady à un bon moment, alors que pour le 27, tu le mets, Grady, tu le relances. Et il a fait jouer Dio beaucoup aussi à plus 27. J'ai pas trop compris à plus 27 la gestion de l'équipe.
Frazier,
Antoine Dio qui au final est à moins 4 hein, dans les plus moins. Alors on va pas le bluffer. Hein, il maîtrise pas tout. On maîtrise. C'est pas difficile de maîtriser cette stat individuellement, mais voilà.
Mais pour le bilan. Dio, il lui arrivait d'être aussi entre guillemets le seul starter avec le reste du banc. Et enfin sans dire que le banc est pour quelque chose, parce que globalement tout le monde a amené sa pierre à l'édifice. Il est parfois mis dans des situations qui statistiquement sont pas les plus optimales.
Bah, il est souvent là pour faire le pompier de service.
Non, en tout cas, dans le premier quart-temps, c'est lui qui a maintenu la chorale.
Oui, il a mis le match. Moi, j'ai beaucoup aimé son match.
Bon, Yanis Morin, on ne découvre pas que c'est un joueur majeur et que contre une raquette, celle de Boulogne-Levallois, qui n'est pas défrisante, il domine. 18 points, 7 rebonds en 23 minutes. Hein, il n'a pas eu un temps de jeu énormissime par rapport à ce qu'il a l'habitude d'avoir, Yanis Morin. 8 sur 12 au tir. On ne découvre pas que Yanis Morin est un joueur qui... l'année prochaine n'aura pas de mal à monnayer ses talents en Betliquidito ou ailleurs.
Et je pense que c'est une grande confirmation pour Yanis Morin, parce que l'an dernier, il a commencé à atteindre des niveaux très hauts qu'il atteignait peu
de manière régulière.
Et cette année, il les atteint tout le temps. Et vraiment, alors, très très belle saison de Yanis
Morin. On
ne peut
pas décorréler les 18 points de Yanis Morin de DJ Cooper, qui est quand même son distributeur attitré. Il y a quand même le jeu qui penche vers Yanis Morin, parce qu'il y a DJ Cooper qui a fait Yanis Morin celui qui lui valide, qui coche les cases de passes décisives. Parce qu'évidemment, il a un plus haut pourcentage qu'un shooter longue distance.
J'ai pas les chiffres de ce soir, mais ça m'a semblé moins systématique que d'habitude. Ouais. Et ça c'est bien.
C'est moins systématique aussi, parce qu'il en a aussi délivré pas mal à Sekou Doumbouya, qui est encore le meilleur scoreur, 22 points, 9 sur 15. Sekou Doumbouya qui, au cours du match, moi je l'ai trouvé très agité. Lorsqu'il est sorti dans le deuxième quart-temps, il y a eu un échange assez virulent avec Marc Bergeouan. Il y a Loïc Barr qui est après allé le voir sur le banc. En sortant du couloir des vestiaires à la mi-temps, j'ai vu que la discussion continuait, je le voyais assez agité. Il y a dû avoir quelque chose.
Il y a une défense.
Et je l'ai vu très frustré. Par moment, même quand il célébrait un panier, on voyait de la frustration.
Alors, c'est à la une fin, défense il finit à sur points. Un panier à 3 points de Boulogne, où il laisse le joueur tout seul, et Bergeron, lui, de loin, lui dit j'étais pas loin, les deux bras en l'air, mais pourquoi tu l'as pas pris, etc.
Et à chaque fois qu'il sortait, il y avait longtemps. Ce qu'il y a, c'est que je pense que ça fera pas un grand joueur de poker, c'est Kudumbuya, parce que ses émotions, on les voit, hein, il les exprime. Et quand il sort du terrain, il est très démonstratif dans la déception de sortir, je sais pas, ou la déception vis-à-vis de lui, on sait pas aussi, on surinterprète peut-être. Il était assez énervé.
Dumbuya, il vient aussi en mission un peu rédemption. Et je pense qu'il.
Ouais, 22 points, il veut, elle est faite, la mission.
Non, mais au niveau talent, au niveau stats, ok. Mais je crois qu'il veut montrer aussi qu'il est capable de jouer dans une équipe et de s'impliquer. Je pense que parfois, et du coup, il y a peut-être trop de détails à l'extérieur qu'il prend en compte et il se focalise un peu trop là-dessus, peut-être.
Ouais, après, il fait
très bon match.
Au niveau de sa ligne de stats, elle est belle.
Il n'avait pas d'adversaire. Il fait
un premier carton qui est pas bon du tout. Il a une sélection de shoots qui est abominable. Il a pris beaucoup de shoots extérieurs. Il n'était pas en réussite. Ouais, il continuait. Et je pense que Marc l'a sorti. Effectivement, il a tenté une aide défensive qui a laissé son joueur direct dans le corner à 3 points. Mais ça c'était le symbole aussi d'une période qui n'était pas très bonne pour ses coups. Et c'est vrai qu'il a bien fini le match. Il fait une ligne de stats qui est très bonne, mais qui n'est pas forcément révélatrice. Et puis, si on lui demandait son match, toi, il nous dirait, je pense, qu'il a pas bien vécu ce match parce qu'il a eu une sélection de shoots.
Oui, c'est bien terminé.
Peu de réussite. C'est bien terminé.
Avec des passes de Cooper à l'intérieur.
Mais il faudra qu'il fasse attention à ne pas prendre des shoots casse-croûte quand il est forcé.
Alors, pour le coup, Marc Bergeron a pu aussi gérer ses Kudumbuya parce qu'il avait aussi une rotation qui a été très performante ce soir. Théo Pierre-Justin, ouais. Ça confirme quand même qu'on tient là un joueur dont on imagine. N'est pas quand il arrivait à Rouen pour jouer avec les espoirs qu'il avait cette capacité comme ça à apporter des très bonnes minutes en sortie de banc.
Mais quel plaisir de voir un jeune comme ça. Enfin,
9 points de rebond.
Il a du talent, il est intense, il joue pour l'équipe. Ce soir, le reproche que tu peux lui faire, c'est peut-être de ne pas avoir toujours suffisamment confiance en lui, de pas oser prendre 2-3 shoots ouverts dans le match.
Tu vois, il a pas pris directement. Il y en a eu deux, et Dio lui a dit, mais tu dois le prendre tout de suite en première intention.
Il l'a allumé dans le temps mort. Il l'a allumé. Mais c'est bien, et ça prouve aussi que Dio, il est investi dans ce rôle-là.
Ouais. C'est un bon match. Après, est-ce que ça va être suffisant pour enchaîner? J'en suis pas encore persuadé.
On fait un petit point classement résultat. Les Rouennais restent 16e au classement. On attend évidemment le résultat de Gravelines qui doit jouer dimanche. Blois a perdu, donc la Chorale de Rouen fait un petit break sur son poursuivant, sachant qu'elle a déjà le Pantavera sur Blois. On sait l'importance à minima de rester à cette 16e place, quitte à rester dans la zone rouge, évidemment prendre la première place en cas de repêchage. On sait jamais. On parle souvent du cas Limoges.
Non, mais on sait jamais. On commence à tous le savoir.
Voilà, il y a quand même de fortes suspicions que Limoges est en danger au niveau de la DNCG en fin de saison et pourrait être relégué. Évidemment, le 16e.
Je crois pas à ça. Ils vont trouver un chéquier par terre, ils vont faire un chèque de 2 millions.
On dit que le prochain meilleur club du Limousin, c'est pas Nazol. Hein.
Voilà.
Il paraît, oui. Oui, tu as raison, il faut laisser au moins deux clubs derrière nous et espérer un repêchage ou une non-montée.
On pouvait craindre, vu le manque qu'a battu la Chorale la semaine dernière, on pouvait imaginer qu'ils allaient être dans le dur à Blois. Bon, ils ont été dans le dur, ils ont gagné 2 points, mais ils ont gagné quand même. Donc ça fait les affaires de la Chorale de Rouen. Et puis, cette équipe de Chalon-sur-Saône, il y a un scénario dans lequel la Chorale de Rouen, samedi prochain, en cas de victoire et avec le Pontavérage, alors Pontavérage, ça va être dur d'aller chercher, parce que la Chorale a perdu de 11 points, il me semble, au match aller. Mais il y a un scénario dans lequel la Chorale de Rouen pourrait sortir de la zone rouge en cas de victoire. À Chalon-sur-Saône la semaine prochaine. Chalon-sur-Saône qui est sur une mauvaise pente sur les derniers matchs.
Mais c'est des équipes comme ça, promues,
battues à Limoges aujourd'hui.
Plutôt une bonne saison, mais qui a toujours des trous d'air tous les 3-4 matchs, etc. Il y a quelque chose à faire. Et c'est l'importance d'avoir gagné ce soir pour se garder toutes les options ouvertes.
On va essayer d'être optimiste.
Et il faut le prendre comme ça.
Allez, ce match, il sera évidemment à vivre sur Active samedi 6 avril à 18h30. Quelque chose à rajouter, Nicolas?
Oui, un petit mot quand même pour féliciter nos espoirs qui se sont qualifiés pour les demi-finales du Mondial Cholet Basket aujourd'hui.
U19, précisément, de la Chorale de Rouen.
Félicitations à eux.
U19, félicitations à eux, effectivement. Ce sera à vivre sur YouTube pour les gens qui veulent vivre ça. Et puis, il y a la U13 de la Chorale de Rouen qui participe au tournoi de Pâques et qui sont qualifiés également pour les quarts de finale ce dimanche. Alors là, par contre, il n'y a pas de live YouTube, mais ça se passe directement à Montbrison. Allez, rendez-vous donc samedi prochain, samedi 6 avril, pour vivre Chalon-Rouen en direct sur Active et le débrief ensuite dans Active Chorale, le podcast. Merci messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir.
Active Chorale, le podcast.